Europe 1.
5h, 7h.
Mathieu Noël.
Bonjour à tous, bienvenue sur Europe 1. Il est 4h58, nous sommes le jeudi 14 mars 2019. Je vous accueille avec mes comparses du petit jour, les délicieuses Eva Roch et Céline Dacosta. Bonjour mesdames.
Bonjour, bonjour Mathieu.
Vous et moi, on commence à se connaître, chers auditeurs, et je sais que chaque fois que vous nous entendez, vous vous dites...
Des cons ! Mais alors là, des sucs cheminés, des médailles d'or, des Oscars.
Non, mais non, vous vous dites, tiens, voilà cette fine équipe de professionnels efficaces sachant allier information de qualité et jovialité de bon aloi pour se lever du bon pied. Aujourd'hui, 14 mars, on souhaite un joyeux anniversaire à Bertrand Blier, Billy Crystal, Albert de Monaco, Patrick Dupont, Nicolas Anelka et également un géant de la musique, Quincy Jones, qui a 85 ans. Que dire de Quincy Jones, Eva ?
Je préfère Patrick Fiori, je crois.
Bien, sinon.
Vous venez de me tuer, là.
Quelle question ?
Vous venez de me tuer.
Ça, je crois qu'il n'y a rien de pire. Alors, je peux vous faire passer pour une nymphomane, ça c'est possible, ça n'a aucun problème.
Ouais.
En revanche, pour vous faire
de
passer pour quelqu'un
Jones,
qui n'est pas mélomane, ça c'est pas possible.
Oui.
Quelle question avez-vous choisi, Eva, de poser à nos auditeurs ce matin ?
Je ne la revendique pas du tout, la question qui suit, je vous préviens. C'est aussi les 140 ans d'Albert Einstein. D'accord ? Mais est-ce que vous êtes intelligent ? Si oui, est-ce que vous avez une preuve de cette intelligence ?
Je crois que la première preuve d'intelligence, c'est de ne pas dire qu'on l'est.
Et voilà, et à contrario, racontez-nous un événement récent qui prouve que vous n'êtes pas Albert Einstein.
J'en ai deux, trois sous la main.
C'est sur Twitter avec le hashtag Europe.
À vos côtés, Eva, sa vocation pour la météo lui est venue très tôt en écoutant Claude François.
Il fait beau, il fait chaud.
Céline Dacosta, quel temps va-t-il faire aujourd'hui ? Soyez un peu plus précis que Claude, s'il vous plaît.
Gris, pluvieux, avec du vent.
Je préférais Claude, je crois.
Du soleil uniquement près de la Méditerranée.
Mais c'est toujours
comme
pareil.
Comme
mais par contre,
c'est toujours,
c'est
toujours chez vous.
Alors vraiment sur les côtes.
Voire même installons-nous à Nice.
Ah oui, je veux bien.
Place Masséna, on installerait une tente.
Ah, ça serait bien.
On avait fait une déloc Europe 1 il y a longtemps, là. C'était peut-être il y a 10 ans, mais je me souviens, c'était sympa.
Bon,
il faisait beau. Le public était chaud. Merci, mesdames.
À 5h du matin, ça va être compliqué.
C'est vrai. Vous écoutez. Deux heures pour tout savoir de l'actu sans jamais oublier d'en rire et toujours, selon les dernières directives de la direction, à la pointe de la modernité. Céline, je vous laisse donner le coup d'envoi comme le ferait un authentique John.
Allez, c'est parti. C'est moderne ça aussi, non ?
Voilà. Ah ouais, là on est bien. Debout les copains, c'est parti.
Nous sommes le jeudi 14 mars, merci d'avoir choisi Europe 1. Et très bon réveil à tous, il est 5h. 5h-7h, Mathieu Noël.
Le premier journal de ce jeudi 14 mars est avec vous, Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Les titres.
La rougeole fait sa première victime en France. La maladie a déjà touché 350 personnes dans notre pays depuis le début de l'année. La crainte d'une pollution sur les côtes françaises, une nappe d'hydrocarbures a été repérée au large de La Rochelle. Un navire italien a coulé avant-hier et transporté 2200 tonnes de fioul et des matières dangereuses. Et puis plus de clubs de foot français en Ligue des champions de football. Les Lyonnais n'ont pas résisté au Barcelone d'un Lionel Messi au top hier soir. Défaite 5-1 en Catalogne en 8e de finale retour. Les Rennais qui affrontent ce soir Arsenal en Ligue Europa portent les derniers espoirs tricolores. Un premier décès dû à la rougeole cette année en France. Il s'agissait d'une personne au système immunitaire affaibli par des soucis médicaux, ce qui rend la vaccination impossible ou inefficace. D'où l'importance du vaccin pour le reste de la population, rappelle Santé publique France, qui précise que depuis janvier, 90% des cas sont survenus chez des personnes non ou mal vaccinées. Mélanie Gomez.
Depuis le début de l'année, la rougeole a touché 350 personnes en France. Environ 30% ont dû être hospitalisés. Pour certains même, il a fallu les transférer en réanimation. Donc ça prouve bien que la rougeole, contrairement à ce que certains imaginent, ce n'est pas juste une maladie infantile bénigne. Et pour preuve, au total 24 personnes en sont mortes depuis 2008. Sans compter les nombreux patients qui ont eu de graves complications, parfois même au niveau du cerveau, précise le professeur Odile Launay, infectiologue à l'hôpital Cochin.
Ça donne en fait des complications neurologiques, en particulier des encéphalites, donc une infection du cerveau. Toute la gravité des encéphalites, c'est d'une part à court terme le risque de décès, et puis à moyen terme et à long terme des séquelles qui peuvent être des séquelles d'ordre motrice, mais aussi d'ordre intellectuel. Donc oui, c'est des complications potentiellement très graves.
Alors la seule solution pour éviter ça, c'est la vaccination pour les enfants. Née depuis 2018, elle est obligatoire, mais pour tous les autres, il faut vérifier, surtout chez les jeunes adultes nés après 1980, particulièrement à risque. Non seulement ils n'ont jamais croisé le virus, mais en plus, ils peuvent avoir été mal vaccinés, car on ne sait que depuis 1997 que pour être bien protégé, il faut avoir eu 2 doses de vaccin.
Les précisions de Mélanie Gomez. Précisons que si 350 personnes ont été touchées par la maladie depuis le début de l'année, cela reste nettement moins que les 966 cas recensés sur la même période l'année dernière.
On va pas aller 5h03.
La crainte d'une pollution à venir sur les côtes de Charente-Maritime et de Gironde après le naufrage mardi d'un navire italien à environ 300 km des côtes françaises à hauteur des Sables d'Olonne. Une nappe d'hydrocarbures de 10 km de long a été repérée. Les soutes de ce navire contenaient 2200 tonnes de fioul ainsi que des déchets dangereux. Un bateau anti-pollution est attendu sur place ce matin. Plusieurs ONG doivent déposer ce matin une requête auprès du tribunal administratif de Paris. Elles attaquent l'État français pour action insuffisante face au dérèglement climatique. Et puis les boîtes noires du Boeing qui s'est écrasé dimanche en Éthiopie vont être analysées en France, annonce le bureau d'enquête et analyse. L'Éthiopie ne dispose pas de l'équipement nécessaire à leur lecture. Par ailleurs, sous pression depuis plusieurs jours, Donald Trump se résigne finalement à clouer au sol américain tous les Boeing 737 MAX, modèle impliqué dans deux crashs ces derniers mois.
Le Brexit, Jérôme, et les députés britanniques disent non au no deal.
Ils ont voté hier contre une sortie sans accord. Après la veille, un vote contre un accord de sortie. Tout ça est très clair, n'est-ce pas? En gros, les députés disent qu'il faut toujours s'arranger avec l'UE pour une sortie du Royaume-Uni, mais pas selon ce que propose pour l'heure la Première ministre Theresa May, une nouvelle fois désavouée hier. Et aujourd'hui, devinez quoi? Nouveau vote, cette fois. Êtes-vous pour ou contre un report de la date butoir du Brexit du 29 mars, date initiale, au 30 juin, à Londres pour Europe 1, Anaïs Cordoba?
En principe, les députés britanniques devraient dire oui à un report du Brexit. Mais Theresa May sait très bien que Bruxelles n'acceptera ce report que si l'accord de retrait est adopté. Elle s'apprête donc à le soumettre une troisième fois au vote des députés avant le 20 mars. Et hier soir, elle a mis en garde les plus récalcitrants contre un nouveau rejet.
Si la Chambre des communes ne soutient pas l'accord dans les jours qui viennent, et comme elle a exprimé le souhait de ne pas sortir de l'Union sans accord le 29 mars, alors cela laisse entendre qu'il devrait y avoir un report beaucoup plus long du Brexit. Un tel report signifie que le Royaume-Uni devra participer aux élections européennes en mai 2019. Je ne suis pas en faveur de ce résultat, mais la Chambre des communes doit assumer les conséquences de ces décisions.
Des arguments qui pourraient convaincre quelques réfractaires, mais pas sûr que cela suffise à Theresa May pour l'emporter. Londres, Anaïs Cordoba, Europe 1.
Le Venezuela est sorti de l'obscurité après une semaine de panne électrique massive. À l'origine, toujours inconnue, le courant est entièrement rétabli, à en croire le gouvernement. Aujourd'hui, les écoles, les administrations doivent rouvrir. Tout était suspendu depuis une semaine. Et puis pour finir, Mathieu, cette petite annonce pour un emploi. Deux artistes suédois viennent de décider de financer un travail garanti à vie. Tous les droits des salariés dans leur pays, rémunération mensuelle. 2 060 euros, hein, c'est pas mal. Alors votre travail, appuyez sur un bouton tous les matins et tous les soirs dans la nouvelle gare de Göteborg qui doit ouvrir en 2026 afin d'allumer et éteindre des lampes fluorescentes. Voilà, c'est tout ce que vous aurez à faire. Les artistes veulent engager une réflexion sur l'intelligence artificielle qui rendrait l'homme superflu. Ils ont déjà prévu que leurs critères de recrutement seraient très sélectifs.
Ben, j'imagine, pour appuyer sur un bouton. Et
la taille du doigt peut-être.
C'est la ça. Taille du doigt.
Bah, je vois pas un critère conférence. La taille du doigt.
Bien joué. Merci beaucoup. J'ai ce qu'il me fallait. On passe au journal des sports. Et alors là, comment dire? Les Lyonnais ont entretenu l'espoir. Hop, une bonne vingtaine de minutes.
Oui, entre la 58e et la 78e minute hier soir, les footballeurs de l'OL n'étaient menés que 2-1.
Ah oui, c'est pas mal quand même. Voilà, c'est pas une déroute.
Ils ont espéré. Attendez, c'est pas fini. Ils ont espéré un score de 2-2 à Barcelone, ce qui les aurait qualifiés vu qu'il y avait eu 0-0 à l'aller. Mais en fait, ils ont craqué dans le dernier quart d'heure de ce 8e de finale retour de Ligue des Champions. Ils ont encaissé 3 buts de plus, score final 5-1. Lyon éliminé ne verra pas les quarts de finale de la Grande Coupe d'Europe. Lucas Touzard est l'unique buteur lyonnais.
Ce qui est un petit peu dommage, c'est que après le but, on aurait pu espérer leur mettre un peu de doute et le doute c'est pas installé assez longtemps dans leur tête. Voilà, après derrière, on sait que ça va très vite, on a craqué en fin de match, ils étaient plus forts que nous sur l'ensemble des deux matchs, c'est comme ça.
Des propos recueillis par Christophe Lamarre, la soirée avait de toute façon mal commencé, un sorti sur blessure dès la première période du précieux gardien Anthony Lopez, l'ouverture du score catalan par Messi est intervenu suite à un pénalty obtenu par la roublardise de l'Uruguayen Suarez. Il n'y avait rien du tout.
Ah, il n'y avait rien en plus. On est volé.
Vous voulez dire que la VAR ne sert à rien?
Alors justement, apparemment l'arbitre n'a pas fait appel à la vidéo. On en reparlera tout à l'heure à 5h40. Ou alors elle ne fonctionnait pas. Il y a un blackout là-dessus pour l'instant.
Messi, en 8e de finale de Ligue des Champions.
C'est arrivé récemment, ces derniers temps, sur d'autres scènes que la scène européenne. Messi, au passage, auteur de 2 buts et 2 passes décisives. Le Français Ousmane Dembélé, entré en jeu, a inscrit le 5e et dernier but.
Également hier soir, la qualification de Liverpool.
Victoire 3-1 à Munich contre le Bayern. Tirage au sort des quarts de finale. Demain, plus de clubs français donc en Ligue des Champions. Les espoirs continentaux tricolores sont entre les mains des Rennais. À Londres ce soir, 8e de finale, retour de Ligue Europa, la 2e Coupe d'Europe. Hein, Arsenal-Rennes, coup d'envoi 21h. Victoire bretonne 3-1 à l'aller.
On termine, Jérôme, avec le chiffre du
13,
jour.
13, le tout petit nombre de jeux concédés en 3 matchs par Rafael Nadal au tournoi de tennis d'Indian Wells en Californie. L'Espagnol encore expéditif cette nuit pour rallier les quarts de finale. 6-3-6-4 face au Serbe Krajinovic. Et puis qualification à grande vitesse aussi de Federer. 6-1-6-4 face au Britannique Edmund. Et c'est très bien parti pour Gaël Monfils qui joue en ce moment face à l'Allemand Philipp Kohlschreiber. Il a gagné le premier set. 6-0.
Ne lui portez pas la poisse.
Il est super en
Jérôme.
Forme. C'est un 8e de finale.
Merci, c'était le journal des sports de Jérôme Lacroix.
Il est 5h08, Mathieu Noël.
Debout les copains, continue avec un point météo suivi du pressing, notre revue de presse en mode zapping. Et puis, changer de vie, facile à dire, plus complexe à faire. Eux l'ont fait. Chaque matin, Europe 1 leur donne la parole dans Fallait oser. Aujourd'hui, nous rencontrerons Cyril. Il travaillait dans la finance, il gère désormais une épicerie en ligne.
Et si je te demande en plus des cacahuètes,
oui,
le costume bleu là qui est joli, et que je te paie plus tard, tu vas pas me dire que c'est possible?
Oui, oui, bien sûr, voilà, regardez.
Et ça, c'est cadeau, ça me fait plaisir.
La SNCF, si possible.
Toute une époque.
Il est 5h09, Mathieu Noël.
On fait un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. Une journée maussade, annoncez-vous.
C'est vrai, du gris, de la pluie, du vent, c'est le programme pour quasiment tout le monde. Pour trouver un rayon de soleil direction les côtes méditerranéennes, je vous le disais tout à l'heure, on en aura aussi sûrement quelques-uns rayons de soleil dans le courant de l'après-midi sur la pointe nord. Et puis la neige sera abondante sur les reliefs de l'Est. On attend de 40 à 80 cm dès 1800 mètres sur le nord des Alpes, associé à un vent fort qui pourra grimper jusqu'à 100 km à l'heure en altitude. Le risque d'avalanche sera élevé et va atteindre 4 sur 5.
Merci Céline. Eva Rock.
Et oui, comme je vous le disais, ce sont les 140 ans d'Albert Einstein. Cette occasion, c'est notre producteur Sébastien Bordonnaf qui m'a suggéré cette question. Êtes-vous
c'est
intelligent?
C'est vrai qu'il est producteur.
Et oui, avez-vous une preuve de votre intelligence ou à contrario, racontez-nous un événement récent qui prouve que vous n'êtes pas Einstein? Et bien Corinne nous a répondu sur Twitter avec le hashtag Europe 1. Je ne suis pas très intelligente, pour preuve.
Ah bah tiens.
Pour preuve.
Vous vous êtes autopiégée.
Oui, je me suis autopiégée. Avoir aidé ma fille pour un devoir alors qu'elle était en 3e et avoir obtenu la note de 6 sur 20, hors sujet d'ailleurs.
J'ai vécu la même chose hier.
Avec
mon fils, il va avoir 7 ans, il est quand même en CP, et donc on a fait les devoirs et il y a un exercice. Je lui ai dit, mais relis, mais pourquoi tu as barré ce mot-là? Il fallait trouver des intrus. Et j'ai mis quand même une minute à comprendre ce qu'il avait compris tout de suite sur un intrus d'un mot. Là, on comprend qu'on n'est pas le berger.
Exactement. Vous continuez sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci beaucoup, Eva. Merci, chers auditeurs.
Europe 1. 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui vous réveille progressivement en commençant par les zygomatiques, mais qui sait aussi parler à votre cœur. Votre cœur qui parfois, je le sais, s'interroge. Et si vous changiez de vie? Chaque matin, vers 5h10, Europe 1 vous présente des hommes et des femmes qui l'ont fait. Aujourd'hui, rencontre avec Cyril Romero, 50 ans, qui vit à Saint-Priest, près de Lyon. Après plus de 20 ans dans la finance, il a décidé un jour de quitter son métier de courtier pour monter une épicerie en ligne.
Fallait oser.
Je me suis dit, ce que tu aimes, c'est bien manger, c'est des bons produits. Donc peut-être qu'il y a une direction à prendre de ce côté-là. Je me suis en fait rendu compte qu'on avait des bons producteurs, transformateurs, qui étaient peut-être pas toujours mis en valeur. Donc je me suis dit, peut-être que si je me rapproche de ces gens-là, j'ai peut-être trouvé plus ma voix et pourquoi pas les représenter.
Cyril veut se démarquer des autres épiceries virtuelles. Il veut mettre en valeur les producteurs grâce à des petites vidéos qu'il réalise ou des textes de présentation.
Oui, c'est une façon de rendre le commerce en ligne un peu moins impersonnel. Le site est ouvert depuis l'automne dernier. Cyril ne gagne pas encore bien sa vie, mais il est très heureux de ce saut dans l'inconnu.
J'étais trop dans un confort. Ça ne me correspondait plus. C'est vrai que là, on ne sait pas ce que sera le lendemain. Il y a un côté pas aléatoire, mais je dirais qu'il y a l'inconnu quand même. Je voulais une nouvelle aventure. Là, pour le coup, je l'ai. On verra bien si ça me correspond avec le temps. Mais en tout cas, je vais tout faire pour aller jusqu'au bout. Et j'espère pour une nouvelle aventure encore sur plusieurs années.
Et sachez que ce qui se vend le mieux chez Cyril, c'est la pâte à tartiner artisanale.
J'aimerais bien trop la goûter.
C'est trop bon, les pâtes tartines artisanales.
Vous pouvez aller jeter un œil, hein, c'est sur le site www.globe-croqueur.com.
Je vois à travers la ville des soupirs en régie, soupirs qui signifient mais on s'en fout de ta vie et de tes goûts.
Mais n'empêche que s'il nous envoie un petit pot de pâte à tartiner, je pense que ceux qui sont en régie vont la goûter. Et puis
bien
si vous avez changé de métier, vous nous écrivez sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Il est 5h13, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures à la lisière de l'info et du rire. Notre force, notre capacité à passer du coq à l'âne en une fraction de seconde, à l'instar de Céline Dacosta. Ah,
super chien, super chien, super chien. C'est quand l'auto du patrimoine?
Ça va vraiment très vite dans sa tête. À suivre, votre point santé. Avec cette question qu'on se pose souvent, quelle est la part du facteur génétique dans l'apparition du cancer? Le docteur Ichou nous répond. Et puis, avoir de la culture, c'est bien. L'étaler, c'est encore mieux. Une belle tartine en perspective avec l'équipe de Jeudi les bons tuyaux. Tous nos conseils, séries, littérature et high-tech. Et il paraît qu'il y aura même un cadeau pour moi. C'est quoi?
Un ensemble, c'est pour faire une délire en fonte.
Ah oui, ah ben j'ai hâte alors. Bon, en attendant, une première pause musicale, voici Bad Liar, Imagine Dragons sur Europe 1.
Oh, hush, my dear, it's been a difficult year. Terrors don't prey on innocent victims. Trust me, darling, trust me.
Mauvais menteur, c'était Imagine Dragon sur Europe 1.
Europe 1, 5h-7h sur Europe 1, Mathieu Noël.
Restez sur Europe 1, Debout les copains continue tout de suite avec le pressing, notre mirifique revue de presse en mode zapping.
Il est 5h17, l'essentiel de l'actualité avec vous Mathieu Noël.
La crainte d'une pollution à venir sur les côtes de Charente-Maritime et de Gironde après le naufrage mardi d'un navire italien dans l'Atlantique à environ 300 km des côtes françaises à hauteur des Sables d'Olonne. Une nappe d'hydrocarbures a été repérée, annonce la préfecture maritime. Un navire anti-pollution est attendu sur place ce matin. Les boîtes noires du Boeing qui s'est écrasé dimanche en Éthiopie vont être analysées en France, annonce le bureau d'enquête et analyse. L'Éthiopie ne dispose pas de l'équipement nécessaire à leur lecture. Par ailleurs, sous pression depuis plusieurs jours, Donald Trump se résigne finalement à clouer au sol américain tous les Boeing 737 Max, modèle impliqué dans 2 crashs ces derniers mois. Enfin, plusieurs ONG doivent déposer ce matin une requête auprès du tribunal administratif de Paris. Elles attaquent l'État français pour action insuffisante face au dérèglement climatique.
Europe 1.
Voici pour les titres de ce 14 mars et ne jouons pas avec les nerfs des turfistes. Faisons tout de suite un point sur les pronostics hippiques du jour. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Mathieu, il y aura des courses cet après-midi à Chantilly et mon pari gagnant sera le 110 Roxanet. Absente des hippodromes depuis plus de 5 mois, elle va effectuer une rentrée très attendue. Après avoir bien hiverné, cette jument studieuse devrait pouvoir d'emblée très bien faire, car je la sais en parfaite condition physique. Dans un état resplendissant avec un poil de souris, elle ne devrait avoir aucune difficulté à justifier les rumeurs très favorables dont elle fait l'objet le matin sur les pistes d'entraînement. Alors notez bien, pour cet après-midi à Chantilly, réunion 1 dans la première course, le numéro 10, Roxanet.
Oui, merci Thierry Léger.
Il est 5h19.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Je ne vois pas du tout ce qui vous fait rire.
Du tout.
J'étais parfaitement concentré sur la chronique de Thierry Léger.
Non, mais vous avez dit quoi juste avant ?
Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit que j'adorais la ville de Chantilly.
Non, vous avez dit j'aime la Chantilly.
Aussi. Vous écoutez Debout les copains et le moment de la convivialité a sonné. Il s'annonce maintenant. Ce moment toujours rieur où les membres de la colloque DLC se retrouvent autour de la table du petit déjeuner. Qui en déshabillé de satin ? Qui en charentaise Viva Portugal ? Qui enfin en slip à paillettes dorées brodé des initiales JL ? Mais c'est sur la cougar niçoise ensommeillée en déshabillé de satin que la caméra s'attarde aujourd'hui. Je dirais une fois de plus. Quelque chose a changé en Eva Rogue depuis quelques jours. Est-ce ce sombrero qu'elle ne quitte plus ? Ces effluves de chorizo qui émanent d'elle dès le petit déjeuner ? Une chose est sûre, la señorita Rock irradie. Cette nuit, son nouvel ami mexicain, Don Chibro, commençant à comprendre qu'Eva n'était pas le genre de femme à se contenter du minimum, et d'ailleurs à sa demande, avait invité, pour lui prêter main forte, quelques amigos de Guadalajara. Guadalajara, Guadalajara. Eh oui, on imagine le tableau. Résultat, une sacrée nuit, una noche muy caliente, même si ce matin, la fatigue est immense.
Je me demande si j'ai pas été trop gourmande.
Eh oui, c'est effectivement. Mes yeux plus gros que le ventre. Au bas mot, salutations. Salutations à vos amigos. Nous, on passe au pressing. Notre revue de presse en mode zapping, les amis. Des jeunes qui sèchent les cours du vendredi pour la bonne cause, l'environnement en l'occurrence, l'obstitre « Comment les jeunes vont changer le monde ?». Même teneur pour Luma qui écrit « Coup de jeune pour le climat ». Les Britanniques, eux aussi, veulent changer leur monde. Brexit, Theresa May cherche toujours la porte de sortie, titre Le Figaro, pendant que Le Parisien affirme que ce Brexit, ça peut être dur pour nous aussi. Enfin, comme chaque année à l'occasion du Salon du Livre qui débute ce soir, Libération donne la parole aux écrivains sous la houlette de Nicolas Caro, prix Goncourt. Pas encore pour Nicolas, ça vient. Sous la houlette de Nicolas Mathieu, prix Goncourt 2018, 30 écrivains s'emparent de l'actualité. Et vous, mes amigos, qu'avez-vous trouvé dans la presse ce matin, Eva ?
Eh bien, on va continuer à parler du Salon du Livre. La Croix consacre une double page au blues des éditeurs. En 5 ans, les ventes de nouveautés grand format ont reculé de 17%. Et pour la 4e année consécutive, le marché du livre a encore baissé de 1,7% en 2018. Des chiffres donc, et des éditeurs qui tentent de cacher les inquiétudes que suscite le marché, affirmant que ce blues est une sorte de rengaine pas vraiment fondée. Et pourtant, certains reconnaissent quand même les difficultés du secteur, mettant en cause notamment la surproduction. Comment en effet absorber les 68 000 parutions qui se déversent chaque année ? En 30 ans, la production de livres a plus que triplé, rappelle Laurent Beccaria des éditions Les Arènes, mais les surfaces de vente n'ont pas augmenté dans les mêmes proportions et pas plus l'appétit des lecteurs. Donc surproduction et des prescripteurs qui ont perdu leur pouvoir. Personne n'a réellement remplacé Bernard Pivot pour promouvoir un livre. Les éditeurs, ils multiplient les envois en service de presse vers les journaux, les radios, les télés, les blogs. Il faut faire du buzz. Alors on se précipite sur les plateaux de Laurent Ruquier, Thierry Ardisson, parfois de François Bunel et sa grande librairie, de C'est à vous, de Quotidien, mais la médiatisation est de plus en plus brève. Quelques auteurs sont surexposés et puis les autres, ils n'ont rien, aucun écho. Une éditrice précise comment rivaliser avec Netflix qui offre une abondance de séries pour moins de 10 euros par mois, le prix d'un livre de poche. C'est une des explications.
C'est pas du tout la même expérience.
C'est pas la même expérience.
Je pensais que c'est une concurrence de...
Alors, ben justement, pour finir, vous avez raison. Guillaume Husson du syndicat de la librairie française reconnaît avec justesse, certes, les
Guillaume
nuages
Husson
noirs... Non, Husson. Husson.
Ah. Les nuages
noirs s'accumulent, mais l'érosion est lente. Le marché livre, globalement, résiste mieux que d'autres secteurs culturels comme la presse, la vidéo, les CD. La situation actuelle est plus une crise des rentrées qu'une crise de la littérature. Vous savez, c'est une petite musique qu'on entend régulièrement en ce moment, à savoir que les rentrées littéraires, elles n'ont plus beaucoup aucun sens.
Comme vos phrases. Merci, Eva Roque. Céline D'Acosta.
Oui, Jérôme Lacroix.
Il ne laisse rien passer.
Ah mais non, mais il me fatigue. Vous pouvez pas savoir.
C'est mon métier. Il en fait des choses comme ça, les gens ne comprendront pas.
Alors moi, je vous parle d'une herbe folle ce matin, une herbe considérée par les agriculteurs, ça ne va pas vous plaire, vous allez voir, comme une mauvaise herbe quand tu as coup de pesticides. Elle s'appelle le Datura stramonium.
Quand on s'appelle comme ça, déjà on a pas d'excuse.
Ouais. Dans des temps reculés, elle était considérée comme une plante magique associée à la magie noire. Elle porte des surnoms comme l'herbe au fou, la pomme épineuse, l'herbe du diable, l'endormeuse, ou encore la trompette de la mort. C'est aussi le surnom de cette plante. Elle pousse d'abord sous forme de jolies fleurs blanches qui développent ensuite des capsules épineuses avec des graines noires à l'intérieur.
Mais elle piège son monde.
Complètement. Des pesticides, on en utilise de moins en moins, ce qui peut expliquer qu'il y a quelques jours, un consommateur a découvert une bogue, une de ces petites capsules épineuses, au milieu de son plat de haricots verts fins de la marque Notre Jardin, produit dans le sud de la France. Alors il a donné l'alerte, hein, car cette plante au surnom terrible peut aussi en avoir les conséquences. Elle contient de très fortes teneurs en alcaloïdes, pouvant entraîner hallucinations, problèmes cardiaques, troubles digestifs. Je vous avais dit que ça n'allait pas vous plaire, même en très petite quantité. Alors une fois cette alerte donnée, Leclerc a décidé de rappeler ses lots de haricots verts surgelés.
Moi qui ai fait des haricots à mon fils hier, en plus c'est vrai. Quelle horreur.
Mais c'était la marque Notre Jardin.
Je ne sais pas quelle marque c'était, mais je vais m'enseigner.
Intermarché, Carrefour, qui a le même fournisseur, en a fait autant. Donc Leclerc et Carrefour ont retiré ses lots. Intermarché et Auchan disent ne pas être concernés par de futurs appels dans leur magasin. Une enquête est de toute façon en cours pour comprendre comment cette bogue a pu créer ce bug. Mais en attendant, on nous rappelle que ce genre d'intoxication n'est pas nouveau. Entre novembre et février, 35 personnes ont été contaminé, incommodé, en Martinique après avoir fait des crêpes à la farine de sarrasin. C'est-à-dire ce matin dans Le Parisien, aujourd'hui en France.
Merci beaucoup Céline, même si tout ça est assez inquiétant. Jérôme Lacroix.
Plus optimiste, la clinique Saint-Jean de Montpellier à l'honneur à la une de Midi Libre ce matin et pour cause, des personnes devenues aveugles ou malvoyantes y sont opérées et elles y retrouvent pour partie la vue. Non, c'est pas un miracle, c'est la science, la médecine. Midi Libre nous présente Fabrice Ramos, 49 ans, un pionnier. Victime d'une maladie génétique dégénérative de l'œil, il était devenu aveugle. Alors aujourd'hui, il est toujours dépendant de son chien et de sa canne blanche. Mais par exemple, dans la rue, il parvient à voir un passage piéton, il parvient à suivre une ligne blanche, à capter les changements de feu tricolore. Même l'autre jour, il est parvenu à couper la viande de son déjeuner. Fabrice, il s'est porté volontaire pour la pose d'un implant, d'une greffe. Un exploit technique, Midi Libre détaille, un implant. 3 mm par 3. Son rôle, remplacer les photorécepteurs de l'œil, c'est dans la rétine, dégradée par la maladie. La prothèse fonctionne grâce à un processeur, un petit ordinateur, donc de la taille d'une pièce de 2 euros, positionné dans une cavité du crâne au-dessus de l'oreille. Ainsi, le circuit classique de formation d'une image via le nerf optique, il change pas, c'est le même. Et le mécanisme est activé à la demande du porteur de la greffe, quand il veut, via un boîtier connecté au processeur, porté à la ceinture du pantalon. Alors bien sûr, pour le moment, le champ retrouvé de vision est restreint, ça se joue dans un angle de 13 degrés, donc évidemment c'est pas grand chose, on voit en noir et blanc, mais on perçoit par exemple les contrastes. Montpellier est ainsi à la pointe d'un marché encore balbutiant mais porteur de formidables espoirs, la vision artificielle. 20 patients doivent être encore opérés à Montpellier d'ici 2020.
Merci beaucoup Jérôme Lacroix, merci à tous les amis, le pressing referme ses portes et va entre nous, tout à fait entre nous, et vous savez qu'ici on ne juge pas, mais ils étaient combien hier soir?
Ouf, on compte plus.
On les embrasse tous.
Europe 1. Il est 5h26, Mathieu Noël.
Debout les copains, continuez avec la météo et le journal d'Hélène Zélani. Sublime réveil à l'écoute d'Europe 1.
Il est 5h27, Mathieu Noël.
On se tourne vers le ciel avec vous, Céline Dacosta. Un ciel bien couvert toute la journée.
Oui, gris, pluvieux sur l'ensemble du pays avec du vent. Encore bien sensible hein, puisqu'on aura de fortes rafales entre 50 et 70 km à l'heure dans les terres, jusqu'à 90 près des côtes. Sur les cimes, notamment sur les Alpes, ça pourrait même grimper jusqu'à 100 km à l'heure. Les premières bonnes pluies ce matin, elles seront pour la Normandie, les Hauts-de-France. Elles vont gagner rapidement le bassin parisien, le Grand Est, la Bourgogne, Franche-Comté et Rhône-Alpes. C'est là où elles seront les plus régulières et les plus abondantes. Pour les autres, ce sera des pluies assez faibles. Les chutes de neige là aussi seront abondantes sur les massifs de l'Est. Un temps couvert, pluvieux et venteux qu'on aura toute la journée. Il reste quand même une zone ensoleillée sur les côtes méditerranéennes, en Corse également. Et puis on aura le retour d'éclaircies sur la pointe nord dans l'après-midi. Mais vraiment la pointe.
Et les températures dans tout ça, c'est
toujours frais ce matin, entre 3 degrés à Millau, 6 à Lyon et Mulhouse, 7 à Lille, 8 à Bordeaux et Paris, 9 à Brest et 12 à Bastia. Cet après-midi, petite moyenne dans l'Est, 9 à 12 degrés, de 12 à 14 pour les autres avec 13 à Paris, 15 à 18 encore près de la Méditerranée.
Merci Céline.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, le 5-7 qui prend l'info au sérieux sans jamais se prendre au sérieux. À suivre. Une sacrée brochette de professionnels. À commencer par le docteur Ichou qui ce matin, dans votre point santé, nous fait part des dernières avancées de la médecine sur une épineuse question. Quelle est la part de génétique dans l'apparition d'un cancer? Et puis, plus rieur, ce sera votre rubrique culture et nouvelles technologies. Jeudi les bons tuyaux, littérature, séries, applications. Il y aura même, m'a-t-on dit, une surprise pour moi. Je ne suis évidemment pas dans la confidence, mais j'espère qu'un énorme gâteau me sera apporté et qu'Hélène Zelani en sortira dans une combi en latex à la Catwoman en chantant la musique de la croisière s'amuse.
Love.
Oh, vous me connaissez si bien, j'ai hâte.
Bienvenue à tous sur Europe 1, il est 5h30. Mathieu Noël.
Les infos de ce 14 mars 2019. Bonjour Hélène Zelani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
À la une ce matin Hélène.
L'État français poursuivi en justice pour son inaction en faveur du climat. Requête qui sera déposée ce matin par plusieurs ONG comme Greenpeace. Un premier décès lié à la rougeole depuis le début de l'année. 350 cas ont été répertoriés dans toute la France. Et puis il n'y a plus aucun club français en Ligue des Champions. Lyon s'est lourdement incliné sur le terrain de Barcelone 5-1 en 8e de finale. On y revient dans le journal des sports. Le gouvernement français en fait-il suffisamment pour le climat, pour les ONG? La réponse est clairement non. Oxfam France, Greenpeace ou encore la Fondation Nicolas Hulot vont déposer aujourd'hui un recours en justice contre l'État pour inaction face au dérèglement climatique. Une vingtaine de procédures similaires sont déjà en cours à travers le monde, lors d'Autriche.
L'État français risque un rappel à la loi et des dommages et intérêts à payer. On pourrait se dire que c'est symbolique, mais parfois, l'État est obligé d'agir. L'exemple le plus fort est celui des Pays-Bas. L'an dernier, l'État a été condamné à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 25% d'ici 2020, mais il a fait appel et n'a pas pour l'instant modifié sa feuille de route sur le climat. En Colombie, parce qu'il n'agit pas suffisamment contre la déforestation, le gouvernement a été contraint d'adopter un pacte sur le climat. Aux États-Unis encore, plusieurs procédures sont en cours contre l'État et contre des entreprises polluantes. Quant aux ONG, en lançant cette procédure aujourd'hui, elles veulent que la justice reconnaisse que l'État est responsable en première ligne, explique Marie Pochon de l'association Notre Affaire à Tous.
C'est dans cette direction qu'il faut aller pour nous face à la crise climatique. Enfin, ça peut aboutir. Le gouvernement nous a laissé une fin de non-recevoir en réalité en nous disant qu'il agissait déjà assez. C'est nécessaire aujourd'hui de faire bouger les lignes.
Mais la procédure devant le tribunal administratif est longue. Il faudra attendre un an et demi ou deux ans avant que le jugement soit rendu.
Lors d'Autriche, j'ai noté qu'Emmanuel Macron est aujourd'hui à Nairobi au Kenya où s'ouvre le sommet pour le climat One Planet Summit.
Oui, Hélène, et à 6h20, on reparlera climat et écologie avec Marc Debony, auteur de la série YouTube « Et tout le monde s'en fout ».
Et puis c'est l'inquiétude après le naufrage du navire italien Grande America qui a sombré mardi au large de La Rochelle à bord des matières dangereuses et 2200 tonnes de fioul lourd. Une nappe d'hydrocarbures d'une dizaine de kilomètres de long a été localisée dans la zone du naufrage, ce qui fait craindre une pollution des côtes françaises. La rougeole a fait un premier mort en France cette année, une jeune femme dont on ne connaît pas l'âge précis ni le lieu de résidence. L'Agence sanitaire de santé publique France précise qu'elle était immunodéprimée et non vaccinée, qu'elle a succombé à une encéphalite. L'an dernier, 3 personnes sont décédées de la rougeole et depuis le début de cette année, 100 patients ont dû être hospitalisés.
On rappelle, il est 5h32.
Bernard Tapie à la barre, il a été longuement entendu hier lors de son procès pour escroquerie.
Oui, cette fois sur le cœur du dossier, donc sur la façon dont il a bénéficié d'un arbitrage présumé truqué. Chloé Triomphe suivait l'audience pour Europe 1. Il s'est expliqué avec beaucoup d'assurance.
Fini les accès de colère, Bernard Tapie a opté hier pour une stratégie plus subtil, le récit assuré et parfois ironique que l'on pourrait baptiser chronique d'un arbitrage annoncé. Car d'après lui, tout le monde avait envie d'une solution dans une affaire qui datait de 95 et qui coûtait un argent considérable à chaque camp, explique-t-il. Alors quand l'arbitrage a emporté le consensus et qu'ont été choisis 3 juges-arbitres considérés comme la fine fleur de la profession, Bernard Tapie n'y a vu aucun inconvénient. Sauf que selon l'accusation, l'un d'eux, Pierre Estoupe, est soupçonné d'avoir été acquis à sa cause. Et l'accusation brandit comme élément à charge une dédicace que Bernard Tapie a rédigée pour Pierre Estoupe en lui offrant un exemplaire de son livre « Vous avez changé le cours de ma vie ». Bernard Tapie explose de rire à la barre. « Mais je ne l'avais jamais vu. Je me suis même trompé sur l'orthographe de son nom. » Celui qui le connaissait en revanche, c'est Maurice Lantourne, l'avocat historique de Tapie qui avait déjà croisé le juge-arbitre dans d'autres dossiers. Il devra s'expliquer tout à l'heure sur ses liens anciens qui font douter le tribunal de l'impartialité de Pierre Estoupe dans cet arbitrage qui avait en 2008, attribué plus de 400 millions d'euros à Bernard Tapie.
Chloé Triomphe, 312 voix contre 308. Hier soir, les députés britanniques ont rejeté de justesse la sortie de l'Union européenne sans accord le 29 mars. Theresa May compte maintenant leur soumettre à nouveau son accord de Brexit la semaine prochaine, le même qu'ils ont déjà rejeté deux fois.
Donald Trump a fini par céder à la pression.
Oui, les États-Unis décident de clouer au sol tout leur Boeing 737 MAX après le deuxième accident de cet appareil en 5 mois. L'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient avaient déjà fait de même. Depuis le début de la semaine, les boîtes noires de l'avion d'Ethiopian Airlines seront transférées dans la journée en France où elles seront analysées par le bureau d'enquête et d'analyse. Et puis, mystère dans un petit village du nord-ouest de l'Espagne. Depuis une semaine, les habitants trouvent des enveloppes remplies d'argent dans leur boîte aux lettres ou sous leur porte.
C'est bon, on va y aller en vacances.
Certains ont même droit à des cadeaux personnalisés avec des phrases comme la princesse du foyer avec un petit cœur. Personne ne sait qui est le mystérieux donateur.
Mais quel mystère.
C'est pas moi.
C'est mais comment ça,
c'est pas moi. Don Chibro, tout ça.
Vous n'avez pas de sous. Je vous rappelle que l'amant d'Eva est mexicain et non pas espagnol. Ne confondons pas tous les pays. Merci, c'était le journal d'Hélène Zelani. Hélène, je ne vous présente pas l'individu musculeux qui nous a rejoint en studio. Jérôme Lacroix est de retour. Or, Hélène, quelle est la spécialité de Gégé?
Il roule des joies.
Non, à l'antenne, je veux dire. Le sport, c'est le sport, c'est vraiment sa spécialité. Vite, on passe au journal des sports.
C'est illégal.
Non, c'est illégal.
Allez, oh. Bon, allez.
Mais oui, c'est vrai, elle a raison.
Oui, ouais, mais c'est illégal, c'est illégal, c'est illégal. Point barre. À la une, il n'y avait pas pénalty.
Les footballeurs lyonnais ne s'en font pas une excuse après leur élimination de la Ligue des Champions hier soir parce qu'ils ont perdu 5-1 sur le terrain des Barcelonais supérieurs, oui, en 8e de finale retour hier soir, emmenés notamment par un super Lionel Messi, 2 buts, 2 passes décisives. Une soirée cauchemar qui a toutefois commencé, oui, par une injustice. L'ouverture du score catalan est intervenue sur un pénalty totalement imaginaire obtenu par l'expérience, on va dire, entre guillemets, de l'Uruguayen Luis Suarez qui s'est effondré dans la surface alors que le défenseur lyonnais avait certes taclé en sa direction, mais absolument pas touché l'attaquant. Alors question ce matin, pourquoi l'arbitre n'a-t-il pas fait appel à son assistance vidéo en vigueur en Ligue des Champions depuis les 8e de finale? Le défenseur lyonnais Léo Dubois, pas plus que les autres, ne possède la réponse.
Je pense qu'on a tous vu la même chose, je pense qu'il n'y a pas pénalty. Après, c'est des faits de match, comme j'ai dit, l'arbitre peut se tromper aussi et... C'est comme ça. Malheureusement, il n'a pas fait appel à la VAR, mais c'est la vie et il faut maintenant, on ne peut plus revenir dessus, donc c'est comme ça.
Ouais, la VAR qui est donc le sigle pour l'assistance vidéo à l'arbitrage. Hein. Aucun club français n'est donc présent en quart de finale. Les Anglais de Liverpool se sont eux qualifiés victorieux 3-1 à Munich face au Bayern. Tirage au sort des rencontres demain. Ce sont donc les Rennais qui portent les derniers espoirs français sur la scène européenne. 8e de finale retour de Ligue Europa ce soir à Londres contre Arsenal. Victoire bretonne 3-1 à l'aller. Coup d'envoi 21h.
Le biathlon, Jérôme et Martin Fourcade enchaînent les désillusions.
À chaque course, sa déception. Le quintuple champion olympique, seulement 39e hier de l'épreuve du 20 km aux Mondiaux en Suède. Pire classement de sa carrière lors de championnats du monde. Toujours le néant en 3 épreuves individuelles.
Oui, c'est difficile de se prendre ça dans la figure à chaque fois parce que je me remotive, parce que je fais. Il y a une remise en question et c'est vrai qu'à chaque fois, même. On espère que ça se débloque et pour l'instant c'est pas le cas et donc forcément oui il y a une sorte de résignation pour cet hiver qui est difficile à vivre.
Le cyclisme est la 4e étape de Paris-Nice remportée par le Danois Kort Nielsen à Pélussin dans la Loire, le Polonais Kwiatkowski premier au classement général. Et puis le tennis et les qualifications express cette nuit de Nadal et Federer pour les quarts de finale du tournoi d'Indian Wells aux États-Unis. Gaël Monfils affronte en ce moment l'Allemand Cole Schreiber. Le Français a gagné la première manche.
On termine, Jérôme, avec une triste nouvelle pour la personnalité du jour ce matin.
Oui, on a appris cette nuit le décès soudain de Charlie Whiting, à seulement 66 ans, victime d'une embolie pulmonaire. Le Britannique était directeur de course de la Formule 1. Il est mort à Melbourne, en Australie, où doit s'ouvrir dimanche la saison de championnat du monde.
Merci, c'était le journal des sports toujours complet de Jérôme Lacroix. Et Gégé, on est rassuré de vous savoir sain et sauf ce matin. Hier, alors que vous parliez de l'accueil critique d'un film à Céline Dacosta, on a cru un instant qu'il vous était arrivé malheur à vous.
Il nous disait, ouais, Jérôme, qu'il se faisait défoncer partout. Enfin, pas Jérôme, le film.
Non. Ouf, ouf. Vous l'avez échappé.
Elle
belle.
A eu honte avant.
Oh mon Dieu. Europe 1. Il est 5h38, Mathieu Noël.
Eh oui. Bien construire ses phrases. Un petit mot à côté et tout s'écroule. Vous écoutez De vous les copains, le 5-7 qui vous informe sans vous saouler, qui vous sort du lit sans vous brusquer et qui prend soin de vous. À l'instar du docteur Ichou, les amis Marcel, qui n'ayant pas suivi l'option psychiatrie en école de médecine est évidemment démuni face à une patiente comme Eva Rock.
Si je souffle sur les nuages, si je fais... Peut-être qu'ils partent.
Son point santé est néanmoins toujours très instructif. Ce matin, le docteur Ichou nous dit quelle est la part des facteurs génétiques dans l'apparition des cancers.
Il est 5h39, Mathieu Noël.
J'étais en train de siffler, ce qui n'est pas très malin devant un micro de radio.
Au cas où on revient à l'antenne.
Non, mais pourtant je siffle fort bien. Le programme de la journée, question météo, Céline. Grisaille, pluie et vent.
Oui, ça c'est le programme. Et dites-vous que ça ne sera pas forcément mieux demain. À part sur la façade ouest, où les éclaircies reviendront un petit peu l'après-midi. Une accalmie qui s'installera samedi avec sur une moitié sud, beaucoup de soleil. Des éclaircies, mais encore beaucoup de nuages pour la moitié nord avec du vent. Aujourd'hui, donc nuages, vent et pluie. Les pluies plus abondantes et régulières entre le nord et l'est. On aura aussi de bonnes chutes de neige sur les reliefs de l'est et des températures qui iront cet après-midi de 11 à 18 degrés du nord au sud.
Merci Céline.
Est-ce que vous faites aussi bien que ça?
Évidemment.
Ah oui. Non mais là vous tuez les oreilles des auditeurs de bon matin là.
C'est vrai, c'est
à 5h40.
Il va déjà pleuvoir.
Il y a 140 ans naissait Albert Einstein. Alors à cette occasion on vous demande, est-ce que vous êtes intelligent? Est-ce que vous avez surtout une preuve de votre intelligence? Ou à contrario, vous nous racontez un événement récent qui prouve que vous n'êtes pas Einstein? Eh bien Jérémy nous dit: difficile de prétendre être intelligent. Pour preuve, sportif accompli, le mois dernier je me suis lancé dans un mini match de foot sans échauffement. Au bout de 2 minutes, déchirure des ligaments. On vous souhaite quand même un bon rétablissement. Et Daki nous dit, pour paraphraser Coluche: je suis un idiot qui a l'air imbécile. L'être vraiment serait plus facile.
Oh, c'est beau.
C'est très beau. Merci beaucoup. Vous continuez sur Twitter avec le hashtag Europe 1.
Merci à vous.
Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
C'est l'heure de notre rendez-vous santé. C'est aujourd'hui que démarre la semaine de lutte contre le cancer organisée par la Ligue contre le cancer. On parle de plus en plus de facteurs génétiques et de médicaments ciblés contre tel ou tel gène. Est-ce qu'on peut dire que le cancer est une maladie génétique, docteur Ichou?
Pas toujours et pas que. L'apparition d'un cancer est liée à une multitude de facteurs dont la génétique est un des facteurs importants. Dans l'hypothèse où vous êtes susceptible de porter un ou plusieurs gènes, et je ne pense pas à vous Mathieu, liés à un cancer particulier, encore faut-il que votre comportement et l'environnement soient favorables à l'apparition de ce cancer. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique. Prenons en exemple le cancer du sein, comme ça vous ne serez pas affolé. L'apparition de ce cancer n'est pas automatique. Il faut encore que votre alimentation, la consommation de tabac, les perturbateurs endocriniens, ne viennent pas exprimer ce cancer qui serait resté sans ces comportements et sans cet environnement complètement potentiel et ne serait pas apparu.
Qu'est-ce que nous apporte donc la génétique dans le traitement ?
Elle nous permet d'affiner le diagnostic parce que chaque patient développe un cancer spécifique. Plus globalement, le traitement du cancer ne repose pas, comme on l'entend souvent, sur une seule méthode, mais par la mise en place, en fonction de la spécificité de la maladie, d'une stratégie combinant génétique, chirurgie, chimiothérapie, hormonothérapie, etc. Vous savez, la stratégie pour traiter un cancer, c'est en fait une stratégie militaire avec des blindés, l'aviation, des missiles, des commandos. Mais dans quel ordre et dans quel timing le faire, le cancérologue et le général sont un même combat.
Général Ichou, merci pour ces conseils. On se retrouve demain, 5h40.
Europe 1.
Et les 5h43, Mathieu Noël.
Vous écoutez Debout les copains, 2 heures pour s'informer solidement tout en gardant le sourire grâce à la joie de vivre communicative de mes complices Eva Rock et Céline Dacosta.
On t'éclabousse de notre bonne humeur.
Nous sommes de ça. Ne soyez plus la cinquième... Attention, pas trop m'éclabousser non plus, j'ai pas mis mon kawaii. Ne soyez plus la cinquième roue du carrosse le matin à la machine à café quand vos collègues discutent de l'actu culturel et qu'après avoir chacun donné leurs impressions sur les derniers films, les dernières pièces, ils vous demandent « Et toi ?» et que vous leur répondez
« Merde, j'ai oublié. »
Prenez les devants en écoutant « Je dis les bons tuyaux », le meilleur de l'actu culturel et high-tech soigneusement sélectionné par nos experts. On y vient, mais d'abord, un petit interlude musical. Voici « Team Dup, mourir vieux avec toi » sur Europe 1.
Tes boucles d'ébène face à l'océan, contemple la plaine comme effleure le vent sous les perles brunes et les ciels d'ivoire dans les mers, les dunes où l'on vient s'asseoir. On prendra le temps de tout voir, d'aimer chaque instant comme un dernier soir. Je veux mourir vieux dans tes bras de soie, sous un ciel pluvieux pour que l'on s'y noie. Je n'ai qu'un seul vœu avant l'au-delà, c'est ton sel, ton feu pour brûler ma voix. On dira jamais
On dira toujours comment j'avanais. On fera l'amour, on brisera les chaînes de nos prisons d'or, du jardin d'Éden. Pour tromper la mort, on s'envolera tout là-haut, emprunter les lunes, sombrer dans les eaux. Oh, je veux mourir vieux dans tes bras de soie, sous un ciel plus vieux pour que l'on s'y noie. Je n'ai qu'un seul vœu avant l'au-delà, c'est ton sel, ton feu pour brûler ma voix. Dans les champs d'orange, de calice et d'Andalousie, se suffire ensemble de délices et de fruits. Se coucher à l'aube, rassasié de la vie, dans le bleu, dans le mauve, de l'éternelle nuit. Oh, je veux mourir vieux dans tes bras de soie, sous un ciel.
C'était Team Up, Mourir Vieux avec toi, avec la trompette des Varrocks sur Europe 1.
Europe 1, 5h-7h, Mathieu Noël.
Debout les copains continuent tout de suite avec Jeudi les bons tuyaux. On reviendra notamment sur la panne géante de Facebook hier.
Il est 5h47, l'essentiel de l'actualité avec vous Mathieu Noël.
Les boîtes noires du Boeing qui s'est écrasée dimanche en Éthiopie vont être analysées en France, annonce le bureau d'enquête et analyse, l'Éthiopie ne disposant pas de l'équipement nécessaire à leur lecture. Par ailleurs, sous pression depuis plusieurs jours, Donald Trump se résigne finalement à clouer au sol à son tour les Boeing 737 Max, modèle impliqué dans les deux crashs ces derniers mois. Le Brexit, les députés britanniques disent non au no deal, ils ont voté hier contre une sortie sans accord de l'Union Européenne. Aujourd'hui, nouveau vote pour ou contre un report de la date butoir du Brexit du 29 mars, date initiale, au 30 juin. Enfin, plus de clubs de foot français en Ligue des Champions de football. Les Lyonnais n'ont pas résisté au Barcelone d'un Lionel Messi virevoltant hier soir, défaite 5-1 en Catalogne en 8e de finale retour.
Europe 1.
Voici pour l'essentiel de l'actu de ce 14 mars. Et tout de suite, Céline, si je vous dis que c'est l'heure des pronostics hippiques, vous me dites ?
Ben, on va y aller. On y va.
Bon ben, j'espère que les chevaux sont un peu plus motivés que vous. Bonjour José Coves.
Bonjour la crème d'Europe 1. Oui, on va à Chantilly cet après-midi sur l'hippodrome. 17% au départ de la première course, mais 5 favoris. D'abord le 6, Falco de la Villière. C'est le seul à être confirmé dans cette catégorie. Tout laisse à penser que le 10, Roxane, est toute proche d'une victoire. Catarbolt, le 13, dépend d'un entraînement en grande réussite, celui d'Henri Alex Pantal. Le numéro 14, Barodard, vient de jouer de malchance. Je lui accorde de nouveau ma confiance contre le numéro 1, Naïf. Il a déjà brillé sur ce tracé des 1500 mètres. Piste en sable. Trois autres possibilités. Le 7, Land of Mine, il va galoper sur sa piste de prédilection. Le 2 Monargent, un bon candidat à une petite place. Et enfin le 12 Ziveri, le meilleur rapport qualité poids sur handicap. Mon ticket pour la première course vers 13h45. D'abord le 6, le 10, le 13, le 14 et l'As. Et l'on ajoute le 7, le 2 et le 12.
Mais alors pourquoi Roxane, le 10 est tout proche de la victoire?
Et c'est pour trois raisons. D'abord, son entraîneur André Fabre est le numéro un de sa profession. Il n'engage jamais à la légère. Ensuite, cette jument a déjà fini trois fois à l'arrivée d'un quintet plus. Et enfin, elle sera associée à Pierre-Charles Boudot, l'un de nos meilleurs jockeys. Mathieu Roxane a une tête de première de la classe.
Merci beaucoup, José. Il paraît qu'on a gagné hier. Enfin, j'ai pas misé les 100 euros que j'avais promis de miser, mais j'espère que vous les avez misés parce que vos pronostics étaient les bons, visiblement.
Eh bien, je vous donne l'argent tout à l'heure.
Ça marche. À tout à l'heure, José.
Il est 5h49. Europe 1, 5h, 7h, Mathieu Noël.
Vous écoutez le 5-7 d'Europe 1. Debout les copains continue avec notre page culture et nouvelles technologies. Voici Jeudi les bons tuyaux. Eva Rock pour les écrans, Clément Le Saffre pour les nouvelles technologies au service de votre quotidien, Nicolas Carreau pour la littérature connectée. Et ce matin, avant de commencer, J'aimerais qu'on ait une pensée pour votre chef à tous, enfin votre chef, votre vice-chef adjoint délégué, Mathieu Charisse. Véritable bourreau de travail qui, nous le confiait hier dans un soupir, ne s'arrête jamais. Un véritable work addict qui sue sang et eau pour cette station, sans compter ses heures. Enfin, presque.
Moi, je prends jamais de vacances. Je suis une machine. Non, vendredi, je suis pas là par contre.
Bisous, matinée. Drôle de bonhomme que ce vice-chef adjoint du service culture d'Europe 1.
On l'appelle Chacha dans le service.
C'est vrai, je ne savais pas ça. Ouais. Ah, une nouvelle piste pour moi.
Ouais,
on commence par la littérature.
Vous êtes censé
connecter.
Faire des blagues sur les gens qui sont là.
C'est vrai, mais aujourd'hui, sinon, j'aurais pu épiloguer sur votre nouvelle petite chemise à peine froissée.
Qui vous fait plus plaisir.
Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, l'association est plus heureuse que la dernière fois. Nicolas Caro, le jeudi, c'est Livre Audio. Et ce matin, vous nous parlez d'un livre très très célèbre. Et
oui, Le Nom de la Rose d'Umberto Eco. Si vous n'avez pas lu le livre, vous avez sans doute vu l'adaptation au cinéma avec Sean Connery dans le rôle de Guillaume de Baskerville, le moine enquêteur, et son assistant Christian Slater. Eh bien, le livre vient d'être adapté en série sur OCS par John Turturro.
Et sinon, il y a l'adaptation en livre audio.
Absolument, et quand on évoque Le Nom de la Rose, il faut toujours une ambiance un peu sinistre.
Audiolib présente Le Nom de la Rose.
Oh là là là.
D'Umberto Eco.
Oh, ça fait peur.
Oh, ça fait peur. Mais ça fait peur, j'en tremble.
C'est que le début, je vous rappelle l'histoire, c'est donc l'ancien inquisiteur Guillaume de Baskerville, un moine franciscain qui se rend en 1327 dans un monastère où un moine a été tué dans des circonstances très étranges. C'est Azzo, le jeune secrétaire de Guillaume, qui raconte l'histoire. Écoutez cet extrait lu par François d'Aubigny.
Je m'apprête à laisser sur ce vélin témoignage des événements admirables et terribles auxquels, dans ma jeunesse, il me fut donné d'assister, en répétant tout ce que je vis et entendis, sans me hasarder à en tirer un dessein, comme pour laisser à ceux qui viendront, si l'Antéchrist ne les devance, des signes de signes, afin que sur eux s'exerce la prière du déchiffrement.
Si vous ne l'avez pas lu, je vous raconte pas la suite. C'est un roman plein de rebondissements avec une révélation finale magnifique. C'est digne d'un Sherlock Holmes. C'est d'ailleurs une influence assumée par Umberto Eco. Guillaume de Baskerville fait référence directement au chien des Baskerville, une aventure de Conan Doyle. Mais c'est un Sherlock Holmes au XIVe siècle. Je vous conseille.
Le Nom de la Rose, à écouter ou à lire ou à voir au cinéma ou en série. Merci beaucoup.
Ou à rêver.
Nicolas Caro. On passe à l'actualité du web et des nouvelles technologies, et avec vous Clément Le Saffre, et Facebook qui nous fait le coup de la panne.
Ouais, la panne géante, même un gros coup de chaud hier sur le réseau social le plus populaire du monde. Aux alentours de 17h, les utilisateurs nombreux ont commencé à rencontrer des bugs, impossible de se connecter à son compte, de télécharger des photos ou même d'envoyer des messages, et en quelques minutes le hashtag Facebook down, ça veut dire Facebook planté, était partout sur Twitter, qui lui marchait parfaitement. Alors en réalité, la panne, qu'elle a duré plusieurs heures, elle est à peine finie encore au moment où on parle, et elle a affecté tout l'écosystème Facebook, WhatsApp et Instagram qui appartiennent au même groupe, ont aussi connu des bugs similaires.
Et quelle est l'ampleur de cette panne?
Le site Down Detector, qui recense les signalements des internautes, a comptabilisé des dizaines de milliers d'appels à l'aide par minute entre 17h et 19h, au plus fort de la panne. De quoi dresser une petite carte, Australie, Afrique du Sud, Inde, Brésil, Mexique,
mais
Canada.
Mais qui appelle à l'aide quand ça marche pas Facebook?
On se dit, bon, les appels à l'aide numérique, j'entends.
Sur Twitter.
C'est des messages.
Qu'est-ce qu'il y a?
Oui, les utilisateurs, sans doute, je veux dire, à quel moment, quand Facebook plante, alors que, enfin, je veux dire, c'est accessoire, Facebook, vous le regardez, c'est amusant, mais si ça plante, c'est pas grave.
Bah oui, mais il y a des gens qui
disent, il y a des petits boutons pour dire, coucou Facebook, ça marche pas.
Oui, d'accord, mais on attend que ça passe.
Au bout de 3 heures, c'est long quand même. Il y a des gens qui ont dû faire d'autres activités sociales, par exemple.
C'est terrible.
Ils s'en sont plaints d'ailleurs.
C'est terrible.
Donc en gros, voilà, ça a touché tout le monde, dans le monde entier. En Europe, c'était notamment à Paris, Londres, Berlin, aux Pays-Bas, en Italie, bref, vraiment partout.
Et on sait à quoi est due cette panne finalement?
Eh ben non, Facebook a assuré tout faire pour résoudre le problème toute la journée, mais il n'a pas donné de détails, si ce n'est que ce ne serait pas une attaque par déni de service. C'est un type de cyberattaque très répandu qui consiste à utiliser des ordinateurs virtuels pour saturer de requêtes les serveurs d'un site. Alors ce n'est pas la première fois que ce genre de panne arrive. En novembre, il y avait déjà eu des ralentissements sur Facebook et Instagram notamment. Alors les raisons à ça, elles peuvent être multiples, à commencer par la saturation naturelle du réseau. Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp, c'est tout de même près de 4 milliards d'utilisateurs cumulés et ça n'arrête pas d'augmenter. Alors forcément, ça met les serveurs à rude épreuve.
Merci beaucoup Clément Le Saffre, on comprend mieux ce qui s'est passé hier quand on a dû donc ouvrir un livre parce que Facebook était cassé.
Arrêtez, Nicolas Caro va faire la tête là.
Et Baroque, vous ne m'avez pas donné votre texte aujourd'hui, vous avez dit... Ah oui, parce que c'est une surprise pour moi.
Oui, il y a quelqu'un qui a un message pour vous.
Qui donc?
C'est toi. Je sais que c'est...
Vous avez vu ça?
Eh oui, je sais qu'elle s'adresse directement à moi.
Oui, c'est Juliette Armanet.
Non, elle s'adresse à moi.
Mais elle vous connaît même pas.
C'est un concert exceptionnel. C'était un concert à la Gaîté Lyrique. C'était au printemps dernier dans une salle surchauffée. Juliette Armanet, vous cherchez dans la salle, Mathieu.
Oui.
Concert remarquable, capté et disponible gratuitement sur le site d'Arte. Et je dois dire, je vous le recommande parce qu'elle est bluffante, Juliette Armanet. Costume argenté. Elle étonne par son talent de pianiste et par sa voix, évidemment, mais aussi par son sens de la théâtralité. Elle est hyper à l'aise. Elle joue avec le public. Elle interpelle les spectateurs, se moque d'eux, dragouille un peu. Et autour de Juliette Armanet, il y a d'excellents musiciens. Ouais. Et au bout d'1h15 de concert, il y a quelques certitudes quand même. Un, elle méritait amplement cette victoire pour l'album Révélation de l'année 2018. Elle est la digne héritière de Véronique Sanson. Et de toute évidence, Juliette Armanet a des qualités.
Alors,
pour jouer la comédie.
Vous avez entendu ce bruit de bouche étonnant de Nicolas Carreau?
Oui, qui m'a perturbée, que j'ai ripé.
Véronique Sanson, pas seulement, c'est avec William Scheller, avec plein d'autres.
On est d'accord.
Si on réduit Véronique Sanson,
c'est la fille de William Scheller et Véronique Sanson.
Exactement, mais vous avez tout à fait raison. Mais elle revendique aussi cet héritage. Et elle a vraiment des qualités pour jouer la comédie. Et au miracle, figurez-vous, elle a un mini-rôle, comme elle dit, dans le prochain film qui est consacré au danseur Nouraïef. C'est un biopic qui sortira dans quelques semaines sur les écrans. Elle y incarne une chanteuse de cabaret à Saint-Germain-des-Prés. Elle est sublime de beauté. Et vraiment, je vous le recommande parce que je suis tombée sous le charme de la théâtralité de cette musicienne. C'était le concert à la Gaîté Lyrique et c'est sur Arte. Et c'est gratuit.
Je veux dire que c'est un beau cadeau, Eva.
Vous avez vu ?
C'est peut-être mieux qu'Hélène Zelani sortant d'un gâteau et chantant La Croisière s'amuse, comme je le disais tout à l'heure. C'est encore mieux un concert
à chaque fois sur la chanson Alexandre, elle fait monter quelqu'un
et
du
elle
public
a fait
qui
monter
s'appelle
Alexandre.
Qui s'appelle soi-disant Alexandre.
Et oui, et je signale, je vais terminer à toute fin utile, que mon deuxième prénom, c'est Alexandre.
Voilà.
Donc ça peut jouer, Merci à toute l'équipe d'Eventuo, on se retrouve demain.
Europe 1. Il est 5h57, Mathieu Noël.
À suivre dans Debout les copains, votre météo avec Céline Dacosta et le journal de 6h de Céline Kalman.
Il est 5h58, Mathieu Noël.
On fait un point sur la météo avec vous, Céline Dacosta. C'est encore friscounet ce matin.
Oui, c'est vrai. 3 degrés à Aurillac, 5 à Ajaccio et Besançon, 6 à Lyon et Tarbes, 7 à Lille, 8 à Bordeaux et Paris, 9 à Brest, 11 à Nice. Cet après-midi, petite moyenne dans l'Est, 9 à 12 degrés. Plus doux pour les autres avec une moyenne de 12 à 14, 15 à 18 même près de la Méditerranée. Avec le vent, de toute façon, cette douceur est largement atténuée.
Côté ciel, c'est le gris qui l'emporte.
Le gris, la pluie et ça sur l'ensemble du pays avec du vent encore, de fortes rafales. Entre 50 et 70 km à l'heure dans les terres, 90 à 100 près des côtes et sur les sommets, les Alpes notamment. Les premières bonnes pluies ce matin seront pour la Normandie, les Hauts-de-France. Elles vont rapidement gagner le bassin parisien, le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et Rhône-Alpes. Pour les régions les plus à l'ouest, on aura aussi de la pluie mais elles seront plus faibles. Les chutes de neige seront abondantes sur les massifs de l'Est. Ce temps couvert, pluvieux et venteux, on l'aura toute la journée. Mais il reste une petite zone ensoleillée sur les côtes méditerranéennes, en Corse également. Puis on aura le retour d'éclaircies, alors timide et uniquement sur la pointe nord dans l'après-midi.
Merci Céline.
Mathieu Noël, tous les jours de 5h à 7h sur Europe 1.